Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi.
La situation sécuritaire dans le pays avec la multiplication des attaques et la situation à Gao, des réfugiés maliens qui dénoncent leurs conditions de retour et de réinsertion socio-professionnelle. Le Mali, premier producteur de coton, et la grève des étudiants, c'est entre autres sujets qui seront abordés au cours de ce forum de la presse. Et nos invités, comme d'habitude, sont tous journalistes. Brahima Touré, justement journaliste, Yuba Konaté du Zénith Balai et Boubacar Yalkouye du pays. Je suis Mouhamadou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Dans cette première partie, nous allons parler de la montée de la violence cette semaine au nord et au centre du pays. Des casques bleus et des soldats de l'armée malienne ont été tués dans la région de Mopti et de Ségou à un jour d'intervalle. À cela s'ajoute l'assassinat d'un élément de la garde nationale par des individus armés non identifiés à Gao. Deux jeunes de la ville auraient été également blessés au cours de cette attaque, une situation qui a provoqué la colère de la jeunesse de Gao. Monsieur Touré, que pensez-vous de cette situation d'insécurité dans le pays ?
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Moi, je pense que ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est que la suite de ce que nous avons vécu en 2017, où le nombre de morts parmi les forces de sécurité, parmi les forces étrangères, a été très élevé. Donc, c'est une suite de cette situation. Donc il appartient aux autorités de trouver une solution, puisque les élections arrivent à grands pas. Elles ont promis de trouver une solution. On attend que les mesures prises fassent leurs effets sur le terrain.
Mais selon vous, qu'est-ce qui provoque cette situation, entre guillemets, interminable?
Oui, on est dans une situation depuis quelques années. Vous le savez très bien, la situation sécuritaire s'est dégradée au centre du pays. Ce n'est plus le nord, ce n'est plus confiné au nord comme ça se passait avant. Aujourd'hui, les régions de Mopti et de Ségou sont gangrénées par cette situation. Les groupes armés qui opèrent sur le terrain veulent montrer qu'elles occupent le terrain, qu'elles sont maîtres du terrain. Donc elles attaquent les forces qui représentent l'État. Donc c'est une situation, c'est un défi en fait à l'État démocratique du Mali qui doit répondre pour y faire face. Voilà.
D'accord. Monsieur Konaté Yuba, vous avez-vous une autre lecture de la situation ?
Ok, merci Sidou Tamani de me permettre de donner mon opinion par rapport à la question. Mais moi, je n'ai pas forcément une autre lecture, mais simplement constater qu'effectivement, c'est la série noire qui continue pour notre pays. Et vous l'avez dit, hein, effectivement, depuis ce que la situation a commencé à se détériorer véritablement dans le centre du pays depuis 2017, c'est là que nous avons vu que le bilan a totalement explosé en termes de morts civiles et militaires. Et ensuite, cette série noire la continue en cette année encore 2018, c'est la suite logique de l'installation progressive de groupes armés qui gagnent du terrain chaque jour dans cette partie de notre pays. Et au début, vous vous rappelez que c'était encore la région de Mopti, mais de plus en plus, il y a une très grande partie de la région de Ségou qui balance aussi dans l'insécurité. Donc cette situation, c'est vraiment les groupes armés qui gagnent du terrain. Et on se rappelle qu'il y a juste un an, quand vous reculez derrière, vous comprendrez que quand l'embrasement des régions centrales a commencé, personne n'a pris les gars au sérieux. On avait pensé que c'était un phénomène éphémère qui allait tout de suite s'éteindre. Mais avec le temps, nous sommes en train de comprendre que aujourd'hui, la situation au centre est plus détériorée qu'au nord. On a pratiquement oublié la situation au nord du pays. Et la spécificité de la situation au centre, c'est que c'est carrément, comment dirais-je, les djihadistes qui sont à la manœuvre. Donc, ça complique un peu davantage, puisque ici, il n'y a pas de revendication politique. C'est juste la revendication religieuse qui est là. Et le terrain a été très favorable. Pourquoi ? Parce que pendant des années, l'État a été soit faible dans ces régions-là, soit l'État a été, a beaucoup brimé les populations, il faut le reconnaître, puisque l'engouement que ça a suscité, que ces mouvements de rébellion suscitent au niveau des régions du centre, c'est ça. Les populations se reconnaissent dans ce que revendiquent les groupes armés qui sont à la manœuvre, et c'est pourquoi on ne le dit pas beaucoup, mais il y a une très grande complicité des populations, des communautés locales aujourd'hui dans ces régions centres-là. Donc c'est ce qui complique davantage la lutte contre ces groupes armés-là. Et les défis aujourd'hui pour l'État, c'est véritablement, parce qu'il y a dans bon nombre de localités aujourd'hui, carrément l'État est absent, il n'y a même pas d'administration publique. Et le défi vraiment prochain, c'est ça, il faut que l'État s'y réinstalle, et certainement, et implique aussi, n'est-ce pas, les communautés, à travers les leaders, avec une très grande communication à l'endroit de ces communautés-là, parce que si les communautés aujourd'hui sont, les gens ne parlent pas beaucoup, mais elles se reconnaissent beaucoup dans les revendications des groupes armés-là, d'où la toute-puissance, parce qu'il y a une très grande complicité aujourd'hui dans ces régions-là, ce qui fait que l'armée et les services de l'État ont du mal à venir à bout de ces groupes-là.
D'accord, Monsieur Boubacar Yalkouye, qu'est-ce qui provoque cette situation selon vous?
Bon, la situation qui se dégrade du jour le jour, du nord au centre du pays, nous dirons tout simplement que c'est le fait que le dossier a été traité de façon légère. C'est ce qui nous a amené jusque là où nous sommes aujourd'hui.
Légère par qui ?
Légère par l'État malien et ses partenaires dans la résolution de la crise de la crise que le Mali vit depuis quelques années. Et nous sommes partis sur le principe d'un accord qui a été signé. Et il y a des groupes armés qui se sont reconnus dans cet accord. Mais la mise en application sur le terrain a posé d'énormes problèmes, d'énormes difficultés. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait que la situation a pris une autre dimension, une autre proportion, qui aujourd'hui échappe même au contrôle de ceux-là qui se considéraient comme les rois du Nord, qui sont les rebelles regroupés au sein de la CMA. Et on dira bien qu'après là-bas, on est venu vers le centre. Mais ce qui est le phénomène qui est le plus inquiétant aujourd'hui, l'accord, on n'arrive pas à l'appliquer. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le fait que le caractère ethnique s'installe dans cette situation aujourd'hui. Imaginez un peu, vous prenez le cas de Gao. On parle d'abord de communauté arabe et après on se retrouve, on nous balance encore dans cette question de communauté songoï. Donc c'est comme si peut-être à ce bras de fer, cette tension au niveau de la ville, c'est entre deux communautés. Et si on part sur ce plan, ça va être compliqué puisque les populations qui vivent ensemble depuis des siècles vont se mettre dos à dos. Et si et cela se matérialise aujourd'hui, ça profite à qui? Mais aujourd'hui, aux djihadistes et aux terroristes qui sévissent dans, comme on appelle, qui écument cette partie du pays. Et au-delà, aujourd'hui, même quand vous venez un peu vers le centre, c'est le même problème aujourd'hui. Parce que quand on entend des attaques de part et d'autre, toujours on met l'étiquette PUL derrière ces attaques-là. Et c'est ce qui complique aujourd'hui la situation. Ça fait qu'il y a un climat de méfiance aujourd'hui entre ces PUL et les autres communautés qui vivent aussi au niveau du centre. Je me rappelle un peu vers le pays de Gon, il y a ce problème aujourd'hui. Et même quand vous venez un peu, j'ai eu à échanger avec le maire de Mopti lors des journées culturelles de Gon, il est revenu sur les mêmes propos. Il y a ce climat qui est là, il faudrait rapidement trouver une solution pour qu'on l'endigne, qu'on l'enlève dans l'esprit des citoyens et qu'on sache que nous devons nous donner les mains pour faire face à cette situation aujourd'hui qui n'est autre que la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Et par-delà aussi, le problème est que l'État a une grande part de responsabilité parce que dans ces zones-là, l'administration, surtout les autorités judiciaires au niveau de la justice a toujours failli. Et parce que quand il s'agit de trancher, c'est toujours le plus offrant qui s'en sort vainqueur. Et il y a cette injustice qui, qui a tant duré là-bas, le fait que ça n'existe plus aujourd'hui avec la présence de ces forces aujourd'hui, la population s'étend de mieux en mieux en l'aise parce qu'elle sait qu'elle n'a pas à faire face aux autorités judiciaires, elle sait qu'elle n'a pas peut-être à faire face peut-être aux impôts et ainsi de suite de part et d'autre. Donc ce qui fait qu'il y a une dépense de moyens qui est là. Donc ce qui fait qu'elle s'adapte bien avec ses forces du mal. Donc rapidement, il faut aussi trouver une solution à ça. Et même le maire aussi a eu à m'expliquer un cas vers Conan où un imam, il a été tiré par quelqu'un, un inconnu, et après, la population a pu mettre la main sur le monsieur qui était blessé. Il était enturbané, on a enlevé le turban. Ils se sont rendus compte que c'est le petit frère direct même à l'imam qui l'avait tiré dessus. Donc il y a ces situations qui sont là. Donc finalement, des fois on se dit aussi que ce sont peut-être les gens de Koufa, ce sont les gens de Yad qui sont en train de tirer sur les citoyens. Mais en fait, on se rend compte après enquête que ce sont même les fils même du territoire qui sont derrière.
Donc des règlements de compte.
Des règlements de compte. Donc il y a toute une panoplie de situations inquiétantes qui est là. Donc rapidement, il faudrait qu'on trouve les moyens, les voies et moyens pour pouvoir quand même résorber ces problèmes. Sinon, tant qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à résoudre le côté ethnique, on n'arrive pas à résoudre aussi, à mettre le fossé entre les populations et ces djihadistes aujourd'hui qui sont en complicité, ça va être compliqué de pouvoir faire face à ce problème.
D'accord, Monsieur Touré, tout de suite, on disait que l'accord, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on n'arrive pas à mettre en œuvre cet accord de paix?
Si vous le permettez, je voudrais revenir un peu sur ce que Yalokouye disait.
D'accord.
Par rapport au rapport entre les populations locales et les forces, les groupes armés qui existent dans ces zones-là, les témoignages montrent que les populations se sentent mieux avec. C'est ça qui est terrible pour l'État.
Mieux avec les groupes armés.
Ils sentent mieux avec les groupes armés. L'État. Les gens vous disent, nos parents qui sont là-bas, ils vous disent on n'est plus embêté par les gendarmes. Lors des jours de foire. Lors des jours de foire, vous le savez peut-être, dans les villages, les gendarmes viennent, ils se postent à l'entrée des foires et ils rançonnent les populations. Et ça n'arrive plus. Les gens, ils sont contents parce que les gendarmes n'arrivent plus à aller faire ce qu'ils voulaient les jours de foire. Deuxièmement, du côté de l'office du Niger, il y avait tout le temps des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Maintenant, les groupes armés qui sont là aujourd'hui, qui contrôlent la zone, ils ont mis ceux qui tranchent, qui font la justice, qui rendent la justice entre éleveurs et agriculteurs. Et les populations se réjouissent de la situation parce que chaque fois qu'un agriculteur avait maille à partir avec un éleveur, l'éleveur, il amène ses animaux, on saccage ton champ, vous vous plaignez à la justice. C'est l'éleveur qui gagne toujours parce qu'il a beaucoup plus de moyens. Il suffit qu'il vende quelques bœufs et il peut soudoyer les juges et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sont les éleveurs qui gagnent régulièrement les procès. Aujourd'hui, avec les groupes armés qui sont là-bas, ils ont mis fin à ça.
Donc les populations se sentent mieux protégées par les groupes armés que les forces de sécurité.
Les populations se sentent mieux protégées par ces groupes-là que par l'État. Encore une fois, c'est vraiment terrible pour l'État que nous défendons tous. Il faut que l'État réagisse pour remettre les choses en place rapidement. Sinon, on va dans une situation catastrophique. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le premier chapitre. Maintenant, pour l'accord, moi je pense que l'accord a été signé. Il faut le mettre en œuvre.
Si on n'arrive pas à le mettre en œuvre, est-ce qu'on a d'autres alternatives?
Moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Il y a une volonté, je trouve qu'il y a un manque de volonté. Autant du côté du gouvernement que du côté des groupes signataires. Le gouvernement n'arrive pas à mettre en place les réformes institutionnelles qu'il faut pour créer le cadre qui est demandé par les rebelles. On a voulu
les ex-rebelles ou les rebelles?
Bon, les ex-rebelles.
D'accord.
On a voulu faire la révision constitutionnelle qui devait être la matrice de ces réformes-là. Mais bon, il s'est trouvé que le gouvernement a mis des dispositions qui étaient sujettes à controverse. Vous avez vu tous les soulèvements que ça a créé. Donc ça a bloqué la révision. Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté politique. Du côté des groupes armés, depuis combien de temps on est en train de leur demander simplement la liste de leurs combattants dans le cadre du DDR? Les gens n'arrivent pas ou bien ils ne veulent pas mettre à disposition la liste de leurs combattants pour que le DDR puisse démarrer. Donc, je conclue en disant qu'il y a un manque de volonté des deux côtés.
D'accord.
Sinon, l'accord peut être bien appliqué, s'il y a une volonté.
D'accord. Monsieur Konaté, si les populations se sentent mieux protégées par les groupes armés que les forces de sécurité maliennes, ont-elles raison d'être complices, d'être en complicité avec les groupes armés?
Ok. Non, bon, moi, je ne parlerai pas de complicité, mais juste peut-être un certain réalisme. Parce que de plus en plus, ce sont ces communautés-là qui interpellent, qui transportent les litiges au niveau
des
responsables rebelles. C'est les communautés elles-mêmes qui transportent les litiges au niveau des... Donc, c'est un certain réalisme qui est là, qui fait que... Parce que le grand frère l'a rappelé, pendant des années, ces gens-là, ils ont été victimes et de la gendarmerie et de la justice. Il faut les reconnaître. Il faut que l'État réagisse et tire, comment dirais-je, toutes les conséquences de ces situations-là. Ça fait des années que ces situations ont perduré dans ces zones-là. Donc, aujourd'hui, il y a une occasion que ces populations-là ont tout simplement saisie pour se défouler. Et on espère simplement que quand la situation va un peu se calmer, on va tenir compte de toutes ces réalités-là pour avancer. Parce que autrement, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et on risque, de plonger encore dans de nouvelles situations. Ce n'est pas bon. Le taureau de ces situations, c'est l'injustice. Et encore l'injustice. Il faut que l'État qui a un rôle régulateur à jouer pour tout le monde, pour toutes les populations, doit sévir pour que les populations soient traitées à égalité. N'est-ce pas? C'est tout le problème. Parce qu'il y a un risque, que Yalko a rappelé entre-temps, il y a un risque de communautarisation de l'affaire au centre du pays, ce qui est très très dangereux. Il faudrait faire tout pour que ça ne se communautarise pas. Sinon, c'est pas bon pour notre pays.
Quand on parle de groupes armés, est-ce qu'il s'agit de la CMA, la plateforme ou les djihadistes inclus?
Non. Moi, au centre, tout le monde sait qu'à la manœuvre, ce sont les djihadistes. Il n'y a pas les groupes armés qui ont la revendication politique. Ça, clairement, tout le monde l'a compris. Au centre, c'est véritablement les djihadistes qui sont à la manœuvre. Et ils le disent clairement. Et les populations se reconnaissent dans les actions qu'ils sont en train de mener. Et je vous dis, nous avons des échos où c'est les populations elles-mêmes qui se lèvent et qui rapportent les litiges à ces djihadistes-là pour qu'ils tranchent. Et ils tranchent de façon radicale, fondamentale, tout le monde est d'accord. Donc ça c'est une réalité. Il faudrait que l'État et du moins les autorités qui sont en place en tiennent compte et en tirent toutes les conséquences pour que ce pays puisse sortir de cette situation et avancer.
D'accord. Yalkouye, peut-on dire que toute cette situation est due à une mauvaise gouvernance dans le pays?
Évidemment. C'est la conséquence que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Sinon, s'il n'y avait pas eu de mauvaise gouvernance, d'injustice, on n'allait pas être en face de tous ces problèmes-là aujourd'hui qui sont en train de nous bouffer petit à petit.
Et sommes-nous toujours dans cette mauvaise gouvernance?
Nous le sommes, effectivement. Et quand on regarde un peu les rapports du vérificateur général, on comprend aisément qu'on est loin de s'en sortir. Et au-delà aussi, bien avant même ces rapports aussi, même au niveau des départements avec les histoires de marché de part et d'autre, on voit comment les choses se passent. Et jusqu'à présent, il n'y a pas cette prise de conscience. Et c'est ce qui est d'ailleurs aussi déplorable de la part aussi de nos autorités, surtout du premier responsable du Mali, qui est le président de la République, qui d'ailleurs en 2014, on s'y rappelle, a décrété cette année comme l'année de la lutte contre la corruption. Et nous avons vu que cette même année, il y a eu plus de vols que les années précédentes. Et ça continue toujours. C'est ce qui est d'ailleurs déplorable. Et c'est d'ailleurs ce qui aussi remonte également la population. Ça le met sur les nerfs parce que, compte tenu de la situation du pays, on ne sent même pas cela au niveau du train de vie des responsables des gouvernants du pays. Imaginez un peu le président de la République Regardez dans le luxe dans lequel ils se trouvent. Prenez l'Assemblée nationale. Prenez, comment on appelle ça, le gouvernement. Ainsi de suite, toutes les institutions de la République. Mais il n'y a pas eu de diminution de train de vie. Or que dans une situation de guerre, les autorités doivent s'adapter à la situation. Mais nous avons vu que c'est tout à fait le contraire chez nous ici. Mais le Malien lambda, qu'est-ce qu'il va se dire? Voilà cette mauvaise gouvernance qui nous a conduit dans cette situation. Et nous comprenons aisément que jusqu'à preuve du contraire, les autorités n'ont pas pris conscience. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce qui fait que certains sont tentés d'être aussi en connivence avec ces groupes armés, et ces djihadistes et autres dans le centre et le nord du Mali. Il faut les comprendre souvent. Et moi, je dirais aussi que le plus important aujourd'hui, il faut trouver les voies et moyens. Et ces voies et moyens, il va aussi être difficile parce que le Mali est en position de faiblesse aujourd'hui parce que malgré la présence du monde entier chez nous ici, malgré la présence du monde entier, on a du mal à faire face à la situation. Alors, si la guerre ne paye pas, comme c'est notre option primordiale, si elle ne paye pas, pourquoi ne pas chercher un plan B qui n'est autre que la négociation? Ce n'est pas la fin du monde, parce que quand on est en position de faiblesse, c'est stratégique aussi. Il faut chercher, il faut ouvrir les voies possibles. Il faut tendre la main à tout le monde. Et raison pour laquelle, je me rappelle, quand nous étions à Bompti, les autorités ont clairement dit, oui, il faut le dialogue. Même s'il y a lieu de tendre la main à Koufa et Yad, il n'y a pas de problème, pourvu que le Mali puisse sortir dans cette situation. On va vouloir peut-être se laisser emporter par l'orgueil. Mais qu'est-ce que cet orgueil-là va nous payer? On aura quoi? Absolument rien. Tandis que on voit sur le terrain que la population se meurt petit à petit. Les militaires font face quotidiennement à des attaques meurtrières. Et aussi ces forces internationales, c'est aussi qui sont là, payent le lourd tribut. Alors il faut rapidement trouver une solution, même s'il faut des compromis, même s'il faut faire le dialogue aujourd'hui. Moi, je trouve que les autorités doivent aller vers ça, puisque nous ne sommes qu'à quelques mois de ces élections. Et si on rate ce dernier tournant, alors ça va être compliqué pour ce pays.
Justement, négociation, il y a quelques jours, le Premier ministre déclarait à Mopti qu'il faut que nous sommes prêts à négocier avec tout le monde. Et quelques jours après, le président de la République annonçait que nous n'allons pas négocier avec les terroristes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une cohérence dans les discours ou est-ce qu'ils ne défendent pas la même vision?
Justement, hein, moi je pense que ça, tout le monde a noté la discordance. Maintenant, puisque, bon, le président, c'est-à-dire qu'il y a une situation assez atypique ici. La ligne des Occidentaux qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, mènent la danse chez nous, il faut clairement le dire, est que pas de négociation avec les islamistes. Donc, le président de la République semble se tenir à cette option-là. Maintenant, il faut être réaliste. Même en Afghanistan, à un moment donné, on a envisagé de négocier avec les talibans. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste et se conformer à la réalité du terrain de notre pays.
Donc vous pensez qu'il faut négocier avec eux?
Négocier, je ne sais pas maintenant, mais il faut discuter avec tous les acteurs. D'accord. Autrement, si on ne discute pas avec tous les acteurs, quelle est l'option qui nous reste? C'est la guerre. Et je ne pense pas que nous soyons dans les meilleures dispositions aujourd'hui pour faire la guerre. Il faut être réaliste. Il faut vraiment discuter avec tout le monde dans la mesure du possible et avec un certain réalisme. Parce que discuter ne veut pas dire que concéder, forcément. Non, il faut discuter, entamer des discussions. C'est à travers les discussions qu'on va savoir qui veut quoi. Maintenant, puisque quand vous prenez un monsieur comme Amadou Koufa aujourd'hui, à ce que je sache, depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, personne n'a discuté avec lui. Véritablement, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut, véritablement.
Sait-on s'il existe réellement?
Justement, c'est ça aussi, c'est une question que souvent les gens se posent. Maintenant, de toutes les façons, même si c'est un mythe qui est là, il y a forcément quelqu'un derrière. Tout ce que nous voyons comme agissement aujourd'hui, et il y a juste un an, vous constatez que la puissance militaire de ces rebelles-là est carrément allée hors contrôle. Donc il y a forcément des individus qui sont derrière, que ce soit Koufa ou d'autres personnes. Il faut envisager de discuter avec ces gens-là pour ne serait-ce savoir qu'est-ce qu'ils veulent. D'accord. De toutes les façons, c'est des Maliens. Et nous l'avons dit, qui n'ont pas des revendications politiques. Ils ont des revendications religieuses. Il faut discuter avec ces gens-là.
D'accord. Deuxième thème de ce forum de la presse, sur 12 000 réfugiés maliens vivant au Niger, seulement 2 000 sont rentrés volontairement en 2017 au Mali, selon la commission tripartite HCR, Niger et Mali. Alors que, au même moment, certains réfugiés de retour affirment que leur réinsertion socio-professionnelle est loin d'être assurée et d'autres même dénoncent leurs conditions de retour. Monsieur Boubacar Yalkouye, que pensez-vous de cette situation des réfugiés? Sont-ils oubliés?
Bon, évidemment, la question, elle a toujours fait objet de débat chez nous ici. Et nous n'avons jamais trouvé de réponse appropriée, et surtout de la part quand même des autorités. Et cette question des réfugiés ne date pas d'aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Et puis aussi sur Ibeka, plusieurs fois, nous avons vu les Maliens qui sont rentrés compte tenu des situations insoutenables dans la sous-région ou bien ailleurs à travers le monde. Et leur témoignage, nous l'avons vu. Et pratiquement dans les témoignages, il n'y a pas de propos espérants qui donnent vraiment de l'espoir. Et ce qui fait qu'on est tenté de dire qu'il y a aussi une mauvaise politique à ce niveau. Parce que s'il y a lieu de les faire rentrer, il faudrait qu'ils sachent exactement, une fois rentrés au bercail, bon voilà, nous avons quand même de quoi aussi subvenir à nos besoins. Ça manque ici. Et donc, raison pour laquelle on se dit que nous considérons que ce sont des oubliés de la République aujourd'hui. Des oubliés de la République, parce que s'ils décident de rentrer, il faut aussi les comprendre. Il faut les comprendre parce qu'ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils n'espèrent pas sur des lendemains meilleurs au Mali, raison pour laquelle ils ont préféré partir. Mais rentrent sous contrainte. Et quand ils rentrent sous contrainte, il faut aussi trouver des mesures appropriées pour qu'ils puissent s'adapter à la réalité du pays. Mais cela n'existe pas. Et raison pour laquelle on se dit aujourd'hui que rapidement, il faudrait que les autorités trouvent les moyens. Que ce soit peut-être pour les Maliens qui sont hors du Mali, ou ceux qui sont aussi tentés aujourd'hui de partir parce qu'il n'y a même pas, il n'y a rien, absolument rien. Même vous voyez un peu cette histoire de 200 000 emplois qui, ça fait des années maintenant, il y a cette polémique autour de cette affaire, on ne comprend absolument rien. Les autorités disent avoir créé plus de 200 000 emplois. Le citoyen lambda dit, bon, on ne voit absolument rien. Mais il faut comprendre, parce que quand on voit un peu le nombre de chômeurs, on voit aussi la flambée des prix des produits de première nécessité, on ne comprend absolument rien. Et rapidement, il faudrait franchement dire que cette question d'emploi, que cette question quand même des réfugiés qui reviennent, il faut prendre des mesures pour leur réinsertion quand même peut-être socio-professionnelle. Rapidement, il faut trouver des solutions par rapport à ça, pour qu'ils puissent aussi se sentir maliens. Parce que quand tu reviens chez soi, tu n'as absolument rien. Qu'est-ce qui reste encore? Donc, il faudrait quand même qu'on trouve des réponses appropriées à ça.
D'accord, M. Touré-Ibrahima, pensez-vous également que les réfugiés sont aujourd'hui des oubliés de la République?
Bon, je dirais pas que c'est des oubliés, mais bon, la situation que le pays vit aujourd'hui, je pense que ça ne milite pas en faveur d'un retour de quelqu'un qui vit à l'extérieur. Quand vous sortez du Mali, vous regardez l'actualité, vraiment ça ne vous incite pas à venir dans un pays où il y a toujours, où on ne parle que d'attaques, d'explosions, de mines. Et il y a l'autre aspect, le problème des réfugiés va se poser avec les élections. Peut-être les groupes armés vont revendiquer, vont demander que les réfugiés reviennent. Tout ça, ça va créer des problèmes. Maintenant, il appartient au gouvernement de créer les conditions pour que les gens puissent revenir chez eux. D'autant plus que la situation se complique, même pour nos compatriotes qui vivent au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso, dans les camps qui sont là-bas. J'ai appris qu'ils ont des difficultés parce que les groupes armés qui sont dans le nord du Burkina Faso opèrent dans ces zones-là. Donc les réfugiés peuvent se retrouver pris entre deux feux, entre d'un côté l'armée burkinabé et de l'autre côté les groupes armés. Donc de là, il faut demander au gouvernement, vraiment les gens doivent prendre les mesures pour que nos parents puissent retrouver.
Donc vous pensez que les conditions ne sont pas favorables à leur retour?
Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Parce que bon, l'insécurité règne dans les zones que les gens ont quittées. Tant que l'insécurité n'est pas circonscrite, je ne vois pas comment les gens peuvent revenir chez eux.
D'accord. Monsieur Yuba, si les élections se tenaient, est-ce que les réfugiés pourront voter? dans ces conditions?
Ah, ça, c'est... Peut-être que je ne pourrais pas répondre à la question, mais peut-être juste remarquer aussi, constater qu'effectivement, moi, je pense que la question des réfugiés est intimement liée à l'application de l'accord. Parce que si l'accord, 2 ans ou presque 3 ans après, avait été appliqué dans sa grande partie, c'est sûr que l'essentiel des réfugiés aurait été de retour aujourd'hui. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, le blocage dans l'application de l'accord impacte aussi sur, comment dirais-je, le retour des réfugiés. En plus, les confrères l'ont abordé déjà, les zones dans lesquelles les réfugiés sont censés revenir sont pas du tout stables comme on le voudrait. Donc, si les zones de retour ne sont pas stables, pourquoi ces gens-là... Parce qu'en fait, ils ont quitté parce qu'il y avait de l'insécurité dans ces régions-là. Donc, si la stabilité n'est pas dans ces régions-là, je ne vois pas pourquoi ils vont venir, comment dirais-je, encore dans ces situations d'insécurité. Entre-temps, l'insécurité s'est développée aussi dans leurs zones d'accueil. Donc, ce qui pose un véritable problème. Mais pour ce qui est du retour des réfugiés dans la perspective de la tenue des élections, je pense qu'à un moment, les groupes armés avaient, comment dirais-je, abordé la question. Et c'est leur souhait, c'est vraiment que le maximum de nos compatriotes vivant à l'extérieur puissent revenir et voter. Et je pense que c'est aussi le souhait du gouvernement. Maintenant, est-ce que la réalité va permettre toute cette situation? Je ne sais pas. En tout cas, la situation des réfugiés est carrément liée à l'application de l'accord.
D'accord. Parlons aussi de la revendication de l'AEM, l'Association des élèves et étudiants du Mali, qui réclame une bonne route sur la route de Kabbalah et également l'opérationnalisation du campus de Kabbalah, puisqu'il y a 6 des étudiants qui ont été tués suite à des accidents avec des camions Ben. Que pensez-vous de cette situation?
Oui, en fait, merci Touré. Moi, je suis de Kalabankoro, donc je vis cette situation-là. La situation qui vit les étudiants à Kabbalah est une vraie réalité. Parce que le premier problème, c'est quoi? Il n'y a pas de voie d'accès à Kabbalah. C'est une réalité, il n'y a pas de voie d'accès. Quand vous prenez le goudron et vous le mettez en proportion avec le nombre de quartiers, mais le matin, quand vous voulez sortir des régions comme des zones comme Kabbalah, Kalabankoro, Tchebani et autres, mais si vous n'êtes pas sur la route à partir de 7h, c'est fini, vous ne pouvez pas sortir. Il y a un véritable d'abord problème structurel. Il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a qu'un seul goudron. Donc, les autorités sont interpellées. À long terme, il va falloir réfléchir à ça. C'est ce que je disais même hier à un confrère. J'ai dit, mais dans 5 ans, si on ne trouve pas une solution, mais les gens de Kabbalah, Tchebani et autres ne pourront pas venir en ville. Ça va être pratiquement impossible. Maintenant, l'autre réalité qui doit être gérée tout de suite, c'est la situation des étudiants. Et la réalité, c'est par rapport aux Ben. Puisque la zone, c'est une zone où les camions Ben prennent le sable, n'est-ce pas, et les distribuent à travers la ville. Mais les routes sont carrément exiguës. Et du fait de l'inauguration, de l'opérationnalisation du campus, les étudiants, à des heures, surtout le matin, sont en nombre sur la route pour pouvoir accéder à leur établissement. Donc, tout de suite, il y a une situation. Les bennes sont en train de circuler. Les étudiants qui sont en moto sont en train de circuler. C'est vrai que certains d'entre eux roulent à tombeau ouvert, c'est vrai. Il faut le déplorer. Mais toute cette situation, c'est d'abord la présence des bennes. Quand vous connaissez ces engins-là, vous comprendrez que c'est des engins sur lesquels on n'a pas beaucoup de maîtrise. Et surtout, ceux qui sont dans ces zones-là, beaucoup, je suis désolé, n'ont pas le frein. Même, ou en tout cas, des systèmes de freinage assez défaillants. Non. Donc, vraiment, véritablement, il y a une situation et une urgence. Puisque en la matière, déjà, le maire de Kalabankoro avait pris une décision pour canaliser la circulation des camions Ben. Surtout que ces camions Ben n'allaient sur pas aux heures de pointe des étudiants. Mais malheureusement, il paraît que c'est la police qui refuse d'appliquer cette mesure-là. Parce que la police estime qu'en arrêtant les camions Ben à ces périodes-là, et c'est un manque à gagner. Et c'est ce qui est. Une fois de plus, c'est des questions de gouvernance. Puisque nous sommes dans un pays.
C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner quelque chose. Dans...
C'est clair. C'est, tout le monde le sait. C'est un manque à gagner pour la police.
D'accord.
Donc c'est véritablement des cas de gouvernance. Et on le déplore, c'est la faiblesse de l'État qui est en jeu et c'est dommage.
D'accord. Monsieur Touré, l'autre difficulté dénoncée par les usagers de la route, c'est que ce n'est pas une route droite et les camions bennes circulent à vive allure et que cela devrait être également revu par l'État malien.
Oui, ce problème, ça pose le problème global chez nous, des grands projets que l'État initie. On dirait que les gens qui sont là, qui s'en occupent, ne voient pas ça sur le long terme. L'université de Kabbalah, tout le monde savait que les étudiants allaient arriver en nombre. Donc les quartiers sont en train de s'étendre de jour en jour. Il fallait prévoir des voies d'accès beaucoup plus grandes que ça. Vraiment, c'est le bon sens seulement qui devrait guider les gens vers ça. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est le gros problème qu'on a dans pratiquement tous nos grands projets. Vous avez vu même la station d'eau de Kabbalah, ce n'est pas notre sujet. Mais avant que ça ne soit mis en service, vous allez voir, ça sera dépassé par le nombre de population. Donc c'est ça le grand problème auquel il faut trouver une solution.
D'accord. Yalkoui, votre point de vue sur cette question.
Oui, la voie d'accès, c'est la question en réalité la plus sensible aujourd'hui, puisque tout est dû à ça. Les artisans mortels aujourd'hui, qui d'ailleurs font que l'AIM et les étudiants font des descentes aujourd'hui dans la rue pour manifester et aussi demander aux autorités de trouver quand même des solutions à ce problème-là. Mais si il y avait une autre voie qui avait été prévue vers l'aéroport, de l'aéroport pour aller vers...
En passant par Garanti-Bougou.
Voilà, effectivement, effectivement. Et mais on voit que ça a du mal quand même à sortir, à se matérialiser. Et on se dit que si ici il y a des problèmes, et là-bas c'est plus facile encore, puisque tout n'est pas encore occupé. Il y a un grand espace qui est vers là-bas, donc il est facile de prendre rapidement les choses, même s'il faut prendre dans les titres fonciers des gens, il n'y a pas de problème. Mais déjà, ici, il y a des questions d'habitation qui sont là. S'il y a lieu d'agrandir la voie, il faut affronter cela. Et par-delà, également, nous avons vu, même le maire avait pris des décisions par rapport à la circulation des bennes d'une certaine heure de la matinée jusqu'à vers le petit soir. Mais cela s'est soldé quand même aussi à un refus catégorique du syndicat de ces camions bennes-là, et qui d'ailleurs, je me rappelle très bien, lors d'une de leurs manifestations, ça s'est soldé encore à des accidents et des pertes en vie humaine. Donc, cela, c'est ce qui fait que le maire, c'est une autorité dans la commune. Le maire prend une décision qui ne s'applique pas. Donc, c'est incompréhensible. Ça veut dire que quelque part, il y a le blocage et il y a peut-être une main invisible derrière. Sinon, même la police ne peut pas refuser d'appliquer une décision quand même émanant du maire de la commune. Donc, ça veut dire que peut-être c'est ailleurs. Il faudrait quand même chercher rapidement une solution à cela pour que nous puissions rapidement aussi à stopper ces cas de mort qui deviennent de plus en plus franchement insoutenables.
D'accord. On va terminer ce forum de la presse avec une bonne nouvelle. Le Mali qui s'est reclassé premier producteur de coton en Afrique. Ainsi, il se place devant le Burkina Faso après avoir fait une très bonne récolte de coton en 2017-2018 selon les autorités. Et cela a été possible après une réforme mise en place pour réguler le secteur. Monsieur Touré, est-ce réellement une bonne nouvelle pour les cotonculteurs?
Oui, c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour les cotonculteurs, mais pour tous les Maliens. Dans la grisaille que nous vivons aujourd'hui, ici, il y a une lumière qui montre que bon, le pays n'est pas totalement... malgré la crise, il y a une partie du pays qui vit normalement. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut signaler aussi que le Burkina paye la politique qu'ils avaient adoptée il y a quelques années par rapport aux OGM. Ils ont utilisé les OGM, c'est ça qu'ils payent aujourd'hui. Et ça nous vaut de passer devant eux. Je pense qu'on ne peut que s'en féliciter.
D'accord. Mais il y a un moment, les cotonculteurs dénonçaient le fait que 99% du coton malien est exporté, mais malgré cela, eux, ils n'en bénéficient pas.
Oui, c'est ça le gros problème qui est signalé depuis des années. La problématique de la transformation de notre production ici pour tirer de la valeur ajoutée, parce que nous vendons le coton de façon... nous égrenons tout simplement et nous vendons. Et il a été prouvé depuis des années que si au moins si on faisait la filature ici, ça nous rapporterait encore plus. Bon, il appartient, je reviens toujours là-dessus, il appartient aux autorités de créer les conditions pour que le coton puisse nous rapporter plus que ce que nous gagnons aujourd'hui.
D'accord. M. Yalkouye, est-ce que ça va changer quelque chose dans la situation socio-économique du pays, cette position du Mali?
Bon, changer, je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce que vous imaginez un peu le nombre, tenez compte du nombre de producteurs aujourd'hui de coton et comparez-le aux années précédentes, peut-être dans les années 90 ou début 2000. À l'époque, ça allait bien et tout le monde était dans la cotonculture. Et les gens ont finalement laissé compte tenu de la mauvaise politique adoptée au niveau de la CMDT. Si aujourd'hui les autorités cherchent les stratégies pour regagner encore la confiance des populations, c'est une bonne chose, mais pourvu que cela soit aussi accompagné par aussi des inquiétudes qui sont là, surtout avec les histoires de le fait qu'on transporte le coton vers là-bas. Et d'ailleurs, l'impact aussi négatif aussi s'abat sur ces mêmes cotonculteurs, sur ces mêmes cotonculteurs sur le terrain. Et maintenant, au-delà de ça également, on sait que certes aujourd'hui on a mieux produit parce que le Burkina a adopté une mauvaise politique, raison pour laquelle on est passé devant le Burkina, mais il faudrait trouver d'autres moyens, parce que imaginez un peu avec les histoires d'engrais qui posent énormément de polémiques aujourd'hui, si on arrivait à adopter une bonne politique à ce niveau aussi, on aurait quand même produit beaucoup plus supérieur aux résultats que nous avons quand même engrangés cette année.
D'accord. Monsieur Youba Konaté, le Mali est premier producteur coton en Afrique, mais est-ce que le citoyen lambda va en profiter?
J'espère que oui, puisque ça fait quand même plus de dividendes et pour plus de personnes. Maintenant, peut-être qu'il y a des années de cela, la CMDT à ce niveau-là aurait dû peut-être penser à ça depuis. Parce que la CMDT accompagne les cotonculteurs dans la production, dans tout ce qui s'ensuit techniquement avec les agents, tout ça. Mais après la vente, les bénéfices, l'usage qui est fait, moi je pense qu'ils doivent penser à des mécanismes pour accompagner dans l'usage des fonds récoltés, parce que la plupart du cas les gens tout de suite quand ils ont de l'argent c'est payer des motos, c'est remarier, c'est tout. Donc finalement on s'en sort pas, ça, c'est un éternel recommencement, alors que on peut faire davantage d'usage utile avec ces fonds récoltés là et améliorer la vie des gens dans ces espaces là et il y a un autre danger, et ça c'est au niveau des responsables, il faut les alerter, parce qu'on se souvient encore, nous avons encore souvenance de quand on avait fait une production record, je crois, dans les années 2004 ou 2005, on a fait la fête du coton ici. Et c'est des milliards qui avaient été dépensés dans cette fête-là. La suite, on la connaît. Donc, il faudrait mettre déjà les responsables en garde contre ces tendances-là, parce que ça ne mène absolument à rien. Donc, et aussi demander à ce que les autorités réfléchissent, à ce qu'on accompagne dans l'utilisation des fonds que les populations vont bénéficier.
Merci. Et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Merci à tous nos invités, Brahima Touré, journaliste, Youba Konaté du Zénith Balai, Boubacar Yalkouye du Pays, débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde assurée par Salim Diouara, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré, à vendredi prochain pour un autre numéro du Forum de la presse de Studio Tamani.
Le grand dialogue,
Sigi Kafoba,
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri,
Haloud Mouni.
Chien Nibiri, Sigi.